Vous écoutez, on lit pour vous.
La famille. Premier lieu où l'on apprend à aimer. Une chronique de Caroline Saillet, parue le 12 mai 2025 dans Ombre et Lumière. Le pape François est mort après avoir beaucoup souffert. Il nous parlait souvent de la famille comme un endroit où nous pouvons apprendre à aimer, à vivre nos différences sans danger, et à tirer parti de nos erreurs. Dans notre propre famille, nous l'expérimentons avec la différence de Marie-Océane. Sa fragilité, son impossibilité de nous suivre si on ne s'occupe pas d'elle, son épilepsie, sa dépendance et son incapacité à exprimer ce qu'elle ressent au milieu de nous. Que dire de sa grande fatigabilité au bruit, alors qu'une grande famille est forcément bruyante. Nos petits-enfants de 4 ans me posent bien des questions. Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle est dans un fauteuil? Si c'est une maladie, est-ce qu'ils peuvent l'attraper? C'est quoi un gène? Je me lance dans une grande explication sur nos cellules, nos chromosomes et nos gènes qui définissent la couleur de nos cheveux, de notre peau, nos muscles, notre caractère. Et c'est loin d'être facile. Ils écoutent attentivement et semblent satisfaits de mes réponses. Dans notre famille, nous devons composer avec beaucoup de différences. Les allergies des uns et des autres, les origines différentes, les croyances, les habitudes de vie. Ces différences sont nos richesses et apprennent tant aux plus jeunes qui vivent avec nous. Mais pour nous, adultes, cela demande parfois un effort. La famille est le premier lieu où l'on apprend à vivre ensemble. Il existe d'autres endroits comme l'Arche, ou bien ce centre de rééducation où j'ai passé 10 semaines, où les différences d'âge, d'origine, de religion, de maladie, de façon de vivre, de difficultés, nous unissent. Nous y sommes poussés à nous entraider, à nous supporter, à composer avec nos douleurs. Nos différences sont partagées et nous rendent solidaires. C'est de cette société-là dont je rêve. Les différences sont des richesses et non des obstacles. Dans notre famille, les petits-enfants apprennent à vivre avec Marie-Océane dont la différence saute aux yeux. Ils apprennent à aimer plus faible qu'eux, plus fragile. Et le rythme de la famille suit alors celui du plus fragile. C'était La famille, premier lieu où l'on apprend à aimer, une chronique de Caroline Saillet, parue le 12 mai 2025 dans Ombre et Lumière.
L'heure des prédateurs. Giuliano da Ampoli, prophète inquiet. Un texte de Christian Desmeules, paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. Le monde semble changer à toute vitesse. Son orbite, en raison d'une série d'événements, semble aujourd'hui s'être déplacée. Avancée de l'intelligence artificielle, attaques répétées contre la démocratie, multiplication des foyers de guerre. Un peu prophète, lanceur d'alerte, romancier du réel et scribe aztèque, l'ancien conseiller politique italo-suisse Giuliano da Ampoli estime avoir quelques clés pour nous aider à comprendre le chaos dans lequel nous avançons. Dans la foulée de son essai « Les ingénieurs du chaos » paru chez J.C. Lattès en 2019, aujourd'hui en poche, dans lequel il exposait les idéologues et les experts du S-mégadonné, travaillant dans l'ombre à la solde des nouveaux leaders nationaux populistes, Trump, Bolsonaro, Matteo Salvini, Giuliano da Ampoli nous revient en chroniqueur inquiet d'un nouvel ordre mondial qui se dessine sous nos yeux. Une nouvelle réalité, fruit corrompu d'une alliance entre géants de la tech et dirigeants populistes, où l'usage de la force brute semble devenir le mode d'opération. Observateur discret qui circule depuis plusieurs années dans les coulisses du pouvoir, en France comme en Italie, conteur habile Giuliano da Empoli, qui enseigne à l'Institut d'études politiques de Paris, dresse dans l'heure des prédateurs une série de portraits aussi inquiétants que fascinants. Des anecdotes de haut vol qui, mises bout à bout, forment un portrait glaçant de notre époque. Il y a des moments où la réalité a plus d'imagination que la fiction, fait remarquer depuis Paris Giuliano da Empoli. Et si vous mettiez certaines situations et certains personnages de ce livre-ci dans une fiction, ils seraient considérés comme peu plausibles. Une réalité qui s'est imposée et qui lui a donné l'envie de mettre de côté l'écriture de son prochain roman pour pondre ce livre imprévu où passent les silhouettes inquiétantes de Donald Trump, de Nayib Bukele, le président salvadorien, et du prince saoudien Mohamed Ben Salman, réincarnation de César Borgia, le modèle du prince de Machiavel, à 5 siècles de distance. Mais aussi celle des patrons de grandes entreprises de la tech comme Elon Musk ou le PDG d'OpenAI, Sam Altman. J'essaie de raconter dans le livre que ce processus était évitable et que, si nous sommes arrivés à ce stade, c'est aussi, à mon avis, par une forme de soumission culturelle des vieilles élites politiques face à la machine de la tech, explique l'écrivain, 51 ans, dans son français parfait, tout juste voilé d'un léger accent italien. Mais s'il y a encore quelques années, le chaos numérique était l'arme des insurgés qui combattaient le système, il est aujourd'hui devenu le sceau des puissants et des dominants, estime Giuliano da Empoli. Au fil d'une série de processus qu'il qualifie inquiets de rituels de dégradation, cette forme de chaos et d'absence de règles est en train de devenir hégémonique. On bascule dans autre chose. Observateur discret. Je ne suis pas pessimiste, assure Giuliano da Empoli. Il y a en Europe une volonté de faire obstacle à cette surpuissance. Et d'ailleurs, l'acharnement avec lequel les prédateurs politiques à la Trump et les prédateurs de la tech à la Musk et à la Zuckerberg, se rue sur l'Europe, sa régulation et ses institutions nous dit qu'ils perçoivent tout ça comme un obstacle. Géographiquement, vous êtes au Canada dans une position sûrement plus inconfortable de ce point de vue, mais je peux vous dire, en tant qu'Européen, qu'il y a ici non seulement de la solidarité, mais de l'admiration par rapport à ce qui se passe au Canada, souligne l'auteur du Mage du Kremlin, paru chez Gallimard en 2022, Grand prix du roman de l'Académie française. Le reproche que je fais en ce moment aux leaders européens, c'est d'être encore dans la ruse tactique. Au fond, personne n'a réagi à l'offensive et à la rhétorique formidablement violente de Trump et d'autres contre l'Europe. Que ce soit lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, au cours d'une rencontre sur l'intelligence artificielle organisée par le Premier ministre du Canada à Montréal, ou bien à l'occasion du Davos du désert à Riyad, en Arabie saoudite, Giuliano da Empoli se fait le témoin d'un monde en train de basculer. S'il assure aujourd'hui ne plus être conseiller politique et n'avoir aucun titre officiel, l'essayiste a néanmoins été présent lors de plusieurs événements internationaux récents, accompagnant souvent à titre d'invité le président français Emmanuel Macron. Comme une mouche posée sur la tapisserie, il observe discrètement, voit sans être vu, essaie de comprendre ce qui se trame sous la surface des choses. Nous sommes, et c'est un peu aussi un caractère de l'époque, dans une phase où tout le monde tâtonne, et le fait d'être placé dans une position de grand pouvoir, au fond, ne vous épargne pas le tâtonnement, croit l'essayiste. L'époque où il suffisait d'accumuler de l'information pour comprendre le monde ou pour prédire l'avenir lui semble révolue. Menace de l'intelligence artificielle. À ses yeux, le principal danger des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle est l'absence de régulation, l'opacité dans laquelle elles évoluent. Pour lui, l'IA est une forme d'intelligence autoritaire qui transforme les données, nos données, en un pouvoir qui a le potentiel de se retourner contre nous. En un mot, écrit-il, ils veulent qu'on remplace l'intelligence par la foi. S'il s'agit, selon lui, d'une technologie extraordinaire, le problème principal de l'intelligence artificielle est que sa gouvernance est catastrophique et fait qu'elle est simplement aux mains d'un nombre très restreint de sujets hyper puissants qui la développent pour nourrir leur dessein de pouvoir. Lecteur de Suétone et de Machiavel, il sait que les classiques ont beaucoup à nous dire à propos de l'époque dans laquelle nous vivons. À commencer par le fait que politique et morale ne font pas bon ménage. Et si les nouveaux Borgiens, les prédateurs, ne lisent pas les anciens, ils savent en tout cas s'y reconnaître. Pour qui sait s'en servir, écrit Giuliano da Empoli, l'histoire est avant tout le moyen de comprendre ce qui se passe de véritablement nouveau. Et l'histoire est en marche. C'était L'heure des prédateurs, Giuliano da Empoli, prophète inquiet, un texte de Christian Demeul paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.
Colombe immaculée et fumée blanche. Un texte de Boukhar Diouf paru le 9 mai 2025 dans La Presse. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé à régner. À régner. Quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon? Vous n'avez pas bien compris, je recommence. Cette blague que certains attribuent à Jacques Prévert me fait beaucoup sourire. Ma famille n'est plus capable de m'entendre la raconter. Cela dit, j'ai suivi le conclave qui a couronné le nouveau pape qui est appelé à régner. Une scène a piqué mon intérêt pendant ce rassemblement de cette autre forme de masculinisme. La télévision nous a montré un goéland à côté de la cheminée qui devait nous annoncer le dénouement du scrutin. Comme tous les curieux, le goéland semblait se demander quand la fumée blanche allait enfin sortir. J'ai même entendu un commentateur associer la présence du volatile à l'esprit du pape François venu espionner ce qui se passait après son départ. Si superstitieuse soit-elle, j'ai aimé l'idée. Le pape semble avoir un lien avec cette espèce, car bien avant l'oiseau vedette du conclave, il avait déjà eu une rencontre marquante avec un autre goéland. Dans son ouvrage intitulé « Tête de linotte », le biologiste et ornithologue Louis Lefebvre rapporte cet événement qui s'est déroulé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Je vous le résume. On est le 26 janvier 2014. Le pape François apparaît à la fenêtre pour dire quelques mots et bénir la foule. Le thème de la journée était alors la guerre en Ukraine, dit l'auteur. Deux enfants qui l'accompagnent sont chargés de lâcher des colombes. Pendant que les oiseaux s'éloignaient sous les applaudissements de la foule, le pape et les enfants quittent la fenêtre. Mais, quelques secondes plus tard, un goéland attaque violemment une des colombes et essaie de la tuer. Et Louis Lefebvre d'ajouter « Les superstitieux y ont vu un mauvais augure, les conspirationnistes, l'œuvre diabolique des services secrets russes. Les sceptiques, qui aiment Darwin et la théorie de l'évolution du vivant, évoqueront la sélection naturelle comme étant le responsable premier de cette transformation des goélands en oiseaux de proie. Ce que j'adore chez le goéland commun, c'est sa plasticité adaptative, cette ouverture naturelle au changement qui lui permet de tirer tous les profits possibles de la vie urbaine. C'est ce que le pape François a essayé de faire avec l'Église catholique. Il voulait la faire évoluer et l'adapter au temps moderne. Cependant, il n'était pas aussi parfait qu'on voudrait le faire croire. Il a dit des choses sur l'avortement et les homosexuels que ceux qui le glorifient préfèrent balayer sous le tapis pour faire de lui un pape plus grand que nature. Je crois cependant que François était un homme bien. On se souviendra de sa déclaration, devenue un élément important de son héritage. « Qui suis-je pour juger ?» C'était sa façon de plaider pour une Église plus inclusive, une organisation qui s'adapte à son époque et à son espace, à la façon des goélands. Il m'arrive régulièrement de citer cette phrase sur scène. Le pape François a essayé d'amener plus de diversité, d'ouverture, de tolérance et de fraternité interconfessionnelle dans son organisation, mais il a été confronté à un vent de face. En cause, il y a parmi les cardinaux ceux qui croient que le système qui les favorise devrait rester immuable et figé comme une roche. Pourtant, François avait raison. L'Église catholique a véritablement besoin d'être réformée. Pouvez-vous imaginer que ces autorités qui passent tout le temps à nous parler d'amour, de tolérance, de bienveillance, de solidarité et de paix refusent encore aujourd'hui d'accorder une place plus égalitaire dans leur institution à l'autre moitié de l'humanité? En vérité, ils discriminent plus que la moitié de l'humanité car les homosexuels ne sont pas les bienvenus. Du moins ceux qui osent sortir du placard et réclamer leurs droits légitimes à la liberté et au bonheur. Il y a aussi le culte du célibat et la condamnation des pensées impures qui méritent d'être réformées. Cette obligation défie toutes les lois du vivant et s'est construite sur une incommensurable fondation d'hypocrisie que des enquêtes ne cessent de révéler aux quatre coins de la planète. Il y a un grand décalage entre le discours de l'Église et ses actions, une incohérence qui mérite d'être révisée. Pour les croyants les plus sensibles, je dois préciser que ce n'est pas parce qu'on critique les dérives de l'Église qu'on est anticlérical. Je crois à la liberté de conscience et je pense aussi que la religion fait du bien à beaucoup de personnes. Je plaide simplement ici pour une poursuite de la vision du pape François. Et il n'était pas parfait, mais comme la colombe, il était un messager de la paix qui cherchait à rendre l'Église catholique plus ouverte. D'ailleurs, il m'arrive de penser que la papauté est à l'humanité ce que la colombe est au pigeon biset. Si la grande majorité des pigeons bisets sont colorés, les colombes sont des oiseaux de la même espèce qui ont été sélectionnés pour leur plumage blanc. Il s'agit donc d'un seul et même oiseau qui s'appelle Columba livia. Encore aujourd'hui, la blancheur semble être un critère de sélection pour le messager suprême de la paix qui règne sur l'Église catholique, une religion devenue pourtant planétaire depuis les entreprises coloniales. Permettez-moi maintenant de poser une question très délicate. L'Église catholique est-elle ouverte à avoir un pape qui n'est pas caucasien? L'Afrique abrite un peu moins de 20% des catholiques de la planète et est l'endroit où la proportion des croyants de cette religion augmente le plus rapidement. Est-ce que cette institution acceptera un jour de couronner un pape africain? Est-ce que les catholiques du monde occidental se réjouiraient autant advenant l'élection d'un pape africain à la peau foncée comme celle de Boukhar? Le débat est ouvert, car les préjugés systémiques ont la mémoire longue. S'il y a une certitude qui ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est que l'Église catholique traîne un historique des plus terribles en matière de discrimination. Cependant, loin de moi l'idée de prêter des intentions racistes à l'institution d'aujourd'hui. J'espère simplement être confondu avant de mourir et de me réincarner en corbeau. En attendant la réponse à ma question, je souhaite au pape Léon XIV d'avoir la force et le courage d'amener plus loin le travail que François, déguisé en ce goéland qui semblait suivre le conclave, voulait accomplir. En attendant, je me demande aussi ce que les cardinaux africains pensent de la symbolique de cette fumée. Quand la fumée est noire, c'est mauvais signe. Quand elle est blanche et immaculée comme une colombe, habemus papam. C'était « Colombe immaculée et fumée blanche », un texte de Boucard Diouf paru le 9 mai 2025 dans La Presse.
L'amitié entre lesbiennes, X's and O's, une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. En ce début d'été, j'écoutais la chanson X's and O's de l'auteur-compositrice-interprète américaine Elle King. Sortie en 2015 sur l'album Love Stuff, cette chanson est dédiée à son ex-copain, d'où l'appellation X's. Alors que les O's sont un jeu de mots faisant référence aux câlins et aux baisers, XOXO, notamment en lettres d'adieu. Qu'en est-il des adieux aux ex dans un contexte d'amour lesbien? Pour la majorité des couples hétérosexuels, lorsqu'ils se séparent, ils s'évitent et ne se revoient plus jamais. Bien sûr, avoir un enfant avec son ex change la donne. C'est-à-dire que les couples séparés ou divorcés sont appelés à se revoir, plus fréquemment qu'ils le voudraient, concernant la garde de l'enfant. Or, s'ils n'ont pas d'enfant, rares sont les couples hétéros qui se fréquentent après avoir rompu. Toutefois, dans le monde lesbien, ce n'est pas rare. J'ai même envie de dire que c'est la norme. Prenons exemple sur un couple d'amis à moi. L'une, que nous nommerons amie A, parle souvent à son ex au téléphone. Cette dernière a refait sa vie, a désormais une vie de couple avec des enfants, mais appelle mon ami à l'occasion. Cette dernière fait de même. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'elle parle de son ex lors des soirées. Ce n'est pas de la nostalgie ou de la colère vis-à-vis de cette relation, mais simplement de l'amitié. Elle en parle comme elle parlerait d'une amie. L'autre, que nous nommerons ami B, voit fréquemment son ex. Cet ex a des enfants que mon ami a élevés avec elle dès l'âge de 7-8 ans. Aujourd'hui, ses enfants sont dans la vingtaine, ont quitté le foyer familial, mais mon ami B voit régulièrement son ex, qui est en couple avec son nouveau copain depuis 7-8 ans. C'est son ami, mais aussi sa famille, comme elle le décrit, en parlant non seulement de ses enfants qui ont quitté le foyer, mais de son ex et de son partenaire. Tous cohabitent dans le même écosystème. Mon ami A parle fréquemment de son ex lors de souper entre amis, et mon ami B n'est pas jalouse ou ne lève pas les yeux au ciel quand elle en parle, et mon ami A va même chez la famille de mon ami B, donc elle s'entend bien avec son ex. Et attention, il n'y a pas ici de triangle amoureux malsain, comme c'est parfois le cas dans le milieu lesbien. Regardez The L Word pour vous rafraîchir la mémoire. Imaginez ce scénario chez les hétéros sans enfants, les ex qui se côtoient de la sorte, par pur plaisir, ou qui parlent de leurs ex de façon exemplaire et sans soulever les foudres, sont plutôt rares. Dans mon entourage, j'ai autant sinon plus d'amis hétérosexuels. Ces amis ne sont plus en contact avec leurs ex-copains. Certaines vont aller sentir ce que l'autre est devenu sur Facebook, demander des nouvelles par l'intermédiaire d'un ami commun, mentionner l'ex, en de très rares occasions en lien avec un événement X, mais c'est à peu près tout. J'ose même dire, pour les couples séparés qui ont des enfants, que lorsque ces derniers deviennent grands et quittent le nid familial, les contacts entre les ex sont très limités, voire inexistants. Généralement, les hétéros ne sont pas amis avec leurs ex. Les lesbiennes, oui. J'ai beaucoup d'amis, de leur point de vue hétéro, qui me disait d'ailleurs que je ne pourrais pas être ami avec mon ex. Ça fait 9 ans et on est toujours amis. Bien sûr, on se voit beaucoup moins souvent et nos rapports ont changé. C'est tout à fait normal. On refait nos vies. Bien sûr, on a de vieilles blessures. Pour ma part, une colère latente qui traduit ma déception envers elle. Mais le temps apaise les souffrances. Je me souviens, peu de temps après notre séparation, je lui ai dit qu'elle serait toujours présente dans ma vie, que nous nous retrouverions, plus vieilles, toujours aussi complices. La distance apaise aussi les maux. Elle s'apprête, une fois de plus, à quitter la belle province pour retrouver sa terre natale. Ça fait un bon 20 ans qu'elle fait l'aller-retour, autant physiquement que psychologiquement. Le cul poigné entre deux chaises, comme il dit. J'espère sincèrement qu'elle se sentira bien un jour, chez elle, peu importe où c'est, mais surtout avec elle-même. Cet océan qui nous sépare, je le crains un peu parce que la distance physique force parfois la distance émotionnelle. Quoique ma meilleure amie habite à 1h30 de Montréal et ça ne nous empêche pas de passer des soirées au téléphone et chaque fois que l'on se revoit, c'est comme si on s'était vu hier. Avec mon ex, je crois que ce sera similaire. On se verra moins, c'est certain, mais cela nourrira les rencontres téléphoniques. C'est ça l'amitié. Je ne doute que certaines hétéros qui liront cet article auront peut-être de la difficulté à se projeter dans le cas de figure ici énoncé dans cette chronique. Voilà, une fois de plus, la spécificité du lesbianisme. Une forte amitié consommée. Lorsque vous enlevez l'aspect sexuel, romantique, plus ou moins fort selon la relation, il n'en demeure pas moins que l'amitié perdure. Et cette dernière peut perdurer sans l'aspect lesbo-érotique ou romantique au sein d'une relation lesbienne. Ce n'est certainement pas impossible chez les hétéros, surtout plus vieux. Certes, c'est beaucoup plus rare au sein d'une relation homme-femme. D'où les nombreuses réflexions et faits que j'ai pu constater au fil des ans. Le temps transforme les relations, mais ne les rend pas moins solides. Je crois que la relation entre mon ex et moi deviendra plus mature au fil du temps, distance aidant. Une distance physique, mais aussi une distance dans le temps qui va se créer, non pas comme un fossé, mais plutôt comme un moment de grâce pour penser autrement notre relation. Une maturité qui grandit, comme un bon vin qui vieillit et prend de la saveur et de la valeur avec l'âge. C'était « L'amitié entre lesbiennes, X's and O's », une chronique de Julie Vaillancourt parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.